La crise ouverte par l'agression irakienne ne doit pas nous faire oublier les transformations de l'Union soviétique et de l'Europe centrale qui, sur le long terme, contribueront sans doute beaucoup plus à remodeler le monde. Le Premier ministre soviétique vient de déclarer que l'application trop rapide d'un plan radical de réformes économiques risquait de provoquer la désintégration pure et simple de l'Union soviétique. Nikolaï Ryzhkov s'inquiète bien en vain. La désintégration a déjà eu lieu. Quasiment toutes les républiques ont proclamé leur autonomie ou leur indépendance, même comme on abandonne un navire qui a coulé. La diatribe de Nikolaï Ryzhkov, d'ailleurs virtuellement ou effectivement démissionnaire, résulte d'une dispute survenue entre lui et Mikhail Gorbatchev devant le Soviet suprême. Gorbatchev s'est en effet soudain rallié au plan dit des 500 jours, élaboré par son vieil ennemi, le président de la République de Russie, Boris Eltsine. Plan d'une folle témérité qui tend à une sorte de pure catastrophe, un Big Bang économique, en 500 jours à partir du 1er octobre. Que vise le plan de 500 jours? La construction au pas de charge d'une économie de marché avec privatisation massive, donc propriété privée et capitalisme. Son père spirituel, l'économiste Stanislas Chataline, ne s'embarrasse plus guère du souci de marier la carpe et le lapin en rêvant d'on ne sait quel socialisme de marché ou troisième voie, simple vue de l'esprit des idéologues en déconfiture. Mais voilà, l'URSS ne dispose pas des matériaux de construction du capitalisme qui demandent des siècles pour être réunis, ni des hommes capables de s'en servir qui demandent des années pour être formés. Peut-elle passer en 500 jours ou même en 500 ans à l'économie de marché? On peut en douter, car il faut bien le comprendre, une économie communiste est un organisme complètement brisé, qu'on ne peut même pas comparer aux économies médiévales de jadis ou aux économies actuelles en voie de développement. Deux exemples le font comprendre. En raison de conditions météorologiques exceptionnellement favorables, jamais depuis plusieurs décennies, l'agriculture soviétique n'avait connu une récolte aussi abondante que cette année. Or, chacun sait que jamais non plus la pénurie alimentaire n'a été aussi aiguë qu'en ce moment. Pourquoi? Tout simplement parce que l'URSS est incapable de récolter tout ce qui a poussé, incapable de transporter tout ce que l'on a pu récolter, incapable de stocker dans de bonnes conditions de conservation tout ce que l'on a réussi quand même à transporter, si bien qu'une quantité gigantesque de la récolte pourrit. Au bout de la chaîne, on estime qu'environ 30 à 40% de la production sont perdues. Au Moyen-Âge ou dans le tiers-monde, quand les récoltes sont mauvaises, il y a des famines, certes, mais quand elles sont bonnes, on sait les ramasser et on sait les engranger. C'est toute la différence entre une économie primitive, mais normale, et une économie anormale, parce que cassée par le communisme, autrement dit, qui n'est plus une économie du tout. Autre exemple, le pétrole. L'URSS, qui en est richement pourvu, ne peut pas profiter de la hausse actuelle pour augmenter ses ventes à l'étranger parce que son équipement est trop vétuste et son organisation trop pagailleuse. Tout au contraire, cette production a même fortement baissé par rapport à l'an dernier. Le consommateur manque même d'essence à la pompe. Cette fois, c'est vraiment l'heure de vérité. Lorsque Gorbatchev, il y a 5 ans, a voulu soigner en douceur l'économie soviétique, elle était déjà morte. Il vient de l'admettre, il ne s'agit plus de passer, comme on le dit, du socialisme au capitalisme, mais du néant à l'être.